Dominique Burgeon, vous êtes le directeur de la division des urgences et de la réhabilitation donc à la FAO. La FAO, donc, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO qui aujourd'hui, avec l'OCHA notamment, donc l'Office de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, a lancé un appel ici à New York, un appel sur donc la situation inquiétante par rapport au fléau des criquets pèlerins donc en Afrique de l'Est, donc dans la Corne de l'Afrique. Alors d'abord, en résumé, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'on parle souvent d'une pire des invasions depuis des décennies dans la région? Est-ce que c'est vraiment véritablement aujourd'hui une cote d'alerte qu'on a dépassée?
Tout à fait. Nous sommes confrontés pour l'instant à une situation tout à fait exceptionnelle, puisque la situation à laquelle nous sommes confrontés, les pays d'ailleurs, les pays même, sont confrontés spécifiquement en ce qui concerne le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie, est tout à fait exceptionnelle. Au Kenya, ça fait 70 ans qu'ils n'ont pas connu une telle situation. En Somalie et en Éthiopie, ça fait 25 ans. Donc, nous avons d'une part la rareté de l'événement et d'autre part le fait que c'est un événement d'une dimension tout à fait exceptionnelle, puisqu'en fait, nous sommes confrontés à des conditions dans lesquelles les conditions de reproduction du criquet pèlerin ont été rendues favorables par une série d'événements climatiques, plus spécifiquement des cyclones, qui ont amené beaucoup d'humidité dans la région et donc qui ont créé des conditions favorables à la multiplication des criquets pèlerins, qui se sont donc multipliés par plusieurs générations au cours des derniers mois et qui maintenant, effectivement, sont à travers tout le Kenya, le centre et le nord du Kenya, l'Éthiopie, la Somalie. Maintenant, depuis hier, en fait, nous avons des informations comme quoi le criquet pèlerin est également entré en Ouganda et en Tanzanie.
Par rapport à cette région de la Corne de l'Afrique, ça concerne combien de personnes? Combien de personnes sont menacées par rapport à leurs ressources, notamment en alimentation?
Alors, justement, nous sommes particulièrement préoccupés, comme je l'ai dit, par rapport à la taille de l'événement, à la quantité de criquets pèlerins qui affectent pour le moment la région, et une région qui est par ailleurs une région où sévit une insécurité alimentaire aiguë de très grande ampleur. Nous avons sur les 5 pays les plus sévèrement infectés, qui sont Kenya, Somalie, Éthiopie, Djibouti, Érythrée, nous avons 13 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë et donc qui requièrent une assistance humanitaire spécifique en matière de sécurité alimentaire. Nous avons en outre 20 millions de personnes qui sont au bord de cette catégorie. Donc avec un tel choc qui va inévitablement avoir un impact sur les productions alimentaires, nous sommes très préoccupés par le fait que si nous n'agissons pas le plus rapidement possible, nous allons être confrontés à une détérioration massive de la situation de la sécurité alimentaire.
Alors justement, pour répondre à cette urgence, quels sont les moyens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des moyens particuliers à mettre en œuvre au niveau terrestre, au niveau aérien?
En fait, l'enjeu principal, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans cette partie de l'Afrique, nous sommes pour l'instant entre 2 saisons de culture. Donc, nous sommes dans une période où les champs n'ont pas encore été ensemencés. Ils le seront à partir du mois d'avril pour la saison culturelle principale dans ces pays. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir justement contrôler au maximum les populations de criquets pèlerins avant que cette saison culturelle ne débute dans ces pays. Et pour cela, effectivement, nous avons une stratégie qui a été mise en place, une stratégie d'ailleurs d'action anticipative pour éviter une détérioration de la sécurité alimentaire, d'une part en appuyant les gouvernements pour que leurs capacités soient renforcées en matière d'opérations de contrôle, effectivement aérien ou terrestre, en fonction du type de situation à laquelle nous sommes confrontés, mais aussi au même moment renforcer les moyens d'existence, renforcer les capacités agricoles de ces populations, tant pour ce qui est des productions vivrières que ce qui est pour des populations pastoralistes.
Alors, la variable par rapport à ça, vous parliez des cyclones qui ont rendu la situation bien pire. Est-ce qu'également donc des pluies ou d'autres facteurs météorologiques peuvent également entraver votre action?
Effectivement, la situation actuelle a été finalement exacerbée par ces cyclones. Il y a donc des multiplications importantes de criquets pèlerins. C'est vrai que pour qu'on puisse effectivement avoir des interventions de contrôle aérien, d'aspersion aérienne, il faut que le temps soit sec. Mais enfin, on est pour le moment dans une période qui se prête à ces interventions de contrôle aérien.
Alors aujourd'hui, on a demandé donc à travers donc cette réunion de sensibilisation qu'il y avait à New York avec, je le rappelle, donc la FAO et l'OCHA donc pour la coordination des affaires humanitaires, 76 millions de dollars. Est-ce que c'est beaucoup par rapport à l'ampleur du problème ou est-ce que c'est vraiment par rapport à l'urgence et répondre aux 20 plus 13 millions de personnes dont vous parliez?
Alors, je pense que c'est peu par rapport à l'enjeu, peu par rapport à ce dont on pourrait avoir besoin si effectivement on ne contrôle pas cette situation le plus rapidement possible. Il faut savoir qu'en 2003-2005, dans la région du Sahel, qui a été confrontée à une situation similaire, la réponse a tardé. La réponse a tardé. La communauté internationale n'a réalisé que très tard l'ampleur de l'événement. Ça a coûté 570 millions de dollars pour contrôler, ce qui correspondait à 170 ans de contrôle d'action préventive.
Aujourd'hui, donc ces 76 millions, est-ce qu'on est sûr qu'on va les obtenir? Est-ce qu'il y a là aussi un problème de lassitude des donateurs par rapport à tous les défis à relever?
Pour l'instant, tout d'abord, on a reçu 21 millions. Et il faut souligner le fait que OCHA, à travers le sous-secrétaire général en charge de la réponse humanitaire, M. Lowcock, a tout de suite mis effectivement 10 millions de dollars comme une contribution dans le cadre de l'action anticipative. C'est bien tout l'enjeu. Il y a effectivement toute cette réflexion qui se fait sur la question de la réponse anticipative, mais quand il s'agit de trouver les ressources, on n'est pas encore bien clair dans quelle fenêtre on va chercher cet argent. Et donc, il y a beaucoup de discussions qui se tiennent au niveau des partenaires, et nous sommes confiants que dans les prochains jours, un certain nombre d'entre eux vont venir avec des contributions significatives.
Alors, on parle justement d'un partenariat avec notamment l'OCHA et la FAO, et également peut-être même le PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Est-ce que c'est nouveau, cela aussi? Est-ce que c'est justement ce caractère un peu anticipatif, de prévention vraiment en amont, qui fait que ces partenariats existent aujourd'hui, alors qu'on avait peut-être tendance à voir des actions séparées autrefois?
C'est vrai qu'au niveau global, il y a une prise de conscience de l'importance de l'action anticipative. Et d'ailleurs, M. Lowcock lui-même est un grand promoteur de cette action. Et effectivement, quand on voit, si vous voulez, le coût d'une action anticipative par rapport à l'action, le coût d'une réponse humanitaire à grande échelle, je veux dire, il n'y a pas photo. On comprend immédiatement qu'il faut aller vers ce genre d'action anticipative. Et donc, c'est tout le plaidoyer qui est fait pour l'instant au niveau des bailleurs de fonds. Et nous sommes confiants, nous voyons qu'il y a un certain nombre d'entre eux sont en train de prendre conscience et sont en train de se mobiliser pour effectivement trouver, si vous voulez, la fenêtre budgétaire dans laquelle ces fonds peuvent être pris pour être mis à disposition.
Concernant le fléau des criquets pèlerins, on a vu par le passé des pays comme Madagascar être frappés fortement, également le Maghreb et d'autres pays. Est-ce qu'il y a un risque justement d'une extension à coup plus large et de rapprochement de ces différentes poches?
Tout à fait. De nouveau, il faut se rendre compte que si on ne parvient pas à contrôler les populations, elles vont se développer d'une façon exponentielle. À chaque génération, elles se multiplient par un facteur 20. Donc, c'est-à-dire 20, 400, 8000 et vous continuez. Donc, à partir de là, il faut savoir que ce sont des migrateurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à se déplacer sur de grandes distances. Ils peuvent facilement aller de la Somalie à la frontière indo-pakistanaise en quelques jours de vol au-dessus de l'océan Indien. Donc, c'est-à-dire qu'il faut absolument parvenir à diminuer cette pression, à diminuer cette quantité. Mais dans un avenir proche, nous avons le Sud-Soudan qui est à risque. Les criquets sont à quelques kilomètres du Sud-Soudan, un pays où il y a déjà plus de 5 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire aiguë, un pays qui a connu une famine il y a 2 ans. Il y a aussi un risque de mouvement vers le Soudan, où la région du Darfour est aussi une région à risque. L'Érythrée, plus des réinvasions permanentes. Si vous voulez, les criquets qui ne seront pas contrôlés dans un pays comme le Kenya, tant que les conditions climatiques seront favorables, ils resteront sur place, sauf si on parvient à les contrôler.
Dernière question, concernant justement le risque qui est un passage entre des différents continents, vous parliez de l'Asie, vous parliez de ce caractère migratoire, est-ce que là également il y a d'autres continents, je pense aux Amériques, je pense à l'Europe, que finalement avec tous ces dérèglements climatiques, ces catastrophes, il n'y ait pas une généralisation du fléau?
La zone d'extension du criquet pèlerin, elle va de la Mauritanie, du Maroc, en Afrique du Nord et de l'Ouest, jusqu'à l'Inde. Ça, c'est l'aire d'extension. Donc, pour le moment, la situation à laquelle nous sommes confrontés, elle a trait à la zone centrale, donc effectivement les pays dont j'ai parlé, et la zone orientale, effectivement, jusque l'Inde, l'Iran, etc., qui sont pour l'instant affectés. Pour l'instant, la zone occidentale n'est pas affectée. Normalement, il n'y a pas d'extension vers les Amériques, effectivement, et vers l'Europe, même si par le passé, quelques criquets ont pu être trouvés ayant pris des courants élevés, ont pu être trouvés en Amérique, voire dans les îles Canaries. Mais en théorie, non, on ne craint pas, disons, une telle extension pour l'instant.